Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h46, c'est la suite, c'est le Les Grands Débats ce matin. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, vos appels 0826-300-300. On va revenir sur la COP26 et sur cette campagne du Conseil de l'Europe.
Oui, avant de revenir aussi sur Sophie Pétronin tout à l'heure après 9h, et puis aussi du côté des hôpitaux, avec ce manifeste pour la santé 2022 du professeur Grimaldi qui sera avec nous, alors qu'il y a, vous l'avez vu, des urgences aujourd'hui qui sont fermées la nuit, entre grosso modo 20h, je crois 22h et puis 6h du matin, elles ferment parce qu'elles n'ont pas les moyens, mais visiblement il y a d'autres problèmes en fait derrière. C'était le cas à Draguignan, à Laval. Il y a aussi ce malaise des sages-femmes du côté de Toulouse, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, elles étaient en direct avec nous. C'est dans les cliniques privées, elles sont en grève parce qu'elles estiment qu'elles ne sont pas suffisamment payées. 2 200 €, elles nous disaient, après 17 ans une sage-femme dans le privé. Il paraît qu'elles sont mieux payés, mieux rémunérés dans le public, comme quoi ça change un peu en fonction des secteurs. Avant de se pencher sur le voile, là aussi, avec ce port du voile, symbole d'une liberté de choisir du Conseil de l'Europe et sa campagne qui a été retirée dans un instant avec vous, sur la COP26, vous avez dit dans votre éditorial tout à l'heure, Alexis Poulain, que c'était un grand barnum et les milliardaires qui jouent finalement... en quelque sorte à faire du grand cinéma, quoi.
Oui, c'est-à-dire en allant... c'est un rendez-vous, on prend beaucoup de selfies. Hein. D'ailleurs, Anne Hidalgo était présente pour faire jouer son réseau international de maires qui avait eu un prix pour le climat. Donc on se prend en photo avec des stars, avec des gens qui sont là pour soi-disant faire avancer les choses. Et COP après COP, on se rend compte que les chiffres vont pas changer tant que ça sur le réchauffement. Mmh. Alors on parle de nouveaux sujets, bien sûr, la reforestation, la fameuse Green Belt, lutter contre les fuites de méthane... On parle peu du méthane, hein. On a beaucoup parlé du carbone, du CO2, mais le méthane est aussi un gaz qui provoque le réchauffement climatique. Donc voilà, et derrière, c'est un peu la mise en scène de l'incapacité de ces leaders internationaux à faire quoi que ce soit sur le climat, parce que c'est compliqué, hein. On ne va pas se
leurrer. Oui, mais s'il n'y avait pas ces grands rendez-vous, on dirait qu'ils ne font rien aussi.
Oui, alors, mais est-ce que c'est nécessaire finalement de se voir tous les ans pour dire qu'on n'a pas fait assez en venant avec 400 jets privés pour cramer autant de kérosène?
Ça vous interpeller, tous les milliardaires qui vont
forcément, et puis ensuite le climat c'est bien, mais il y a des questions bien sûr sur la santé publique, les famines qui sont toujours là, sur la taxation des entreprises et des centimilliardaires, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Alors c'est bien que Jeff Bezos dise, moi je donne 2 milliards pour la Green Belt, mais sur ces 115 milliards de fortune personnelle, ces 2 milliards ne sont rien comparé à ce que Amazon doit en impôts de par le monde.
Elisabeth Lévy, le grand barnum, qu'est-ce que ça suscite chez vous?
C'est encore, je suis encore pire qu'Alexis, hein, vous savez, sur ce terrain. C'est-à-dire, vraiment, si vous voulez, c'est les dames patronesses, un peu, les nouvelles dames patronesses du monde, vous savez, qui nous disent, ah voilà, je vais distribuer un peu au bon peuple, et par ailleurs, ça n'est que de la com. Je dis pas du tout que le problème n'est pas réel, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse se régler comme ça devant les caméras. Or, comme l'a dit Alexis, ils sont là pour plastronner devant les caméras. Donc, et puis alors en plus des politiques, effectivement, c'est devenu maintenant la bonne cause des stars. Hein. Vous savez que les comédiens maintenant, c'est leur grand truc, le showbiz. Etc. Donc c'est vraiment une façon de se faire valoir en disant regardez comme je suis bon, j'aime la planète.
Oui, c'est ça, c'est à côté de bons sentiments. D'ailleurs, il y a Greta Thunberg a failli ne pas venir, elle boudait la COP et ils ont trouvé une jeune Kenyane qui était là.
Une nouvelle Greta Thunberg.
Voilà, et qui a dit qui a eu le même discours à peu près, de dire oui, il faut ouvrir vos cœurs, il faut faire davantage pour la jeunesse, etc. On a l'impression que ça se répète et ça devient un peu ridicule. Voilà,
moi c'était mon éditeur. Évidemment, il y a des réflexions à mener, mais par ailleurs, je ne sais pas si les objectifs fixés sont réalistes ou pas, si vous voulez, parce que c'est toujours la même histoire. S'il faut détruire les sociétés humaines pour sauver la planète, je ne suis pas sûr qu'on y gagne. Or, en entendre certains, si vous voulez, il faudrait tellement arrêter de consommer l'énergie que effectivement, ça détruirait les sociétés humaines. Oui. Et dernière chose, je trouve qu'en France, on devrait avoir plutôt une réflexion, un débat plus poussé sur le nucléaire, Parce que ça, c'est ça pour nous, c'est probablement la voie de l'avenir. Enfin, en tous les cas, c'est ce que je pense, mais je trouve que ça devrait être matière à un véritable débat au lieu d'un festival de postures.
Bon, ce sera peut-être le cas pendant la campagne électorale qui va venir, hein, qui a déjà démarré. Alors, il y a eu cette campagne du Conseil de l'Europe qui est finalement a été retirée hier soir.
Grosso modo, c'est pas clair. Hein.
Ouais, ça, alors,
c'est pas clair. C'est pas clair qu'elle a été retirée.
Alors,
parce
je reprécise, hein, Elisabeth,
La liberté, pardonnez-moi, Patrick.
Oui, c'est une campagne où on voit en fait des jeunes femmes qui portent en fait le voile, le foulard, et c'est la liberté dans le hijab. Et grosso modo, c'est une campagne pour lutter contre les discriminations et la liberté de choisir. Et j'ai cru comprendre que ça allait être retiré, non ?
Non, c'est les tweets sur Twitter. C'est sur Twitter que les tweets ont été retirés. Mais cette campagne, je crois qu'elle va être adaptée peut-être, mais ils ont imprimé les affiches à mon avis.
Oui, c'est ça.
Non, ce ne sont pas des affiches imprimées, ce sont des visuels format réseaux sociaux. Hein. En
plus, d'accord. Donc ils ont retiré déjà sur Twitter.
On pourrait réfléchir à la grammaire un peu de ces campagnes, parce que c'est vraiment du marketing où on vend des idées comme on vend des bagnoles. Passons sur la forme. Donc, ils ont effectivement fermé le fil Twitter, et par ailleurs, c'est quand vous allez sur le site du Conseil de l'Europe, il n'y a plus en une espèce d'accroche, je suppose qu'elle y était, moi je l'ai pas vu hier, mais je pense que ça devait être un peu plus mis en valeur. Mais en revanche, si vous cherchez hijab dans le moteur de recherche du Conseil de l'Europe, vous trouvez tous les visuels.
Ouais, parce que c'est assez incroyable, parce que le slogan c'était « la beauté est dans la diversité, tout comme la liberté est dans le hijab ». On est au-delà de la promotion de la diversité, là. Ouais. C'est quand même.
On pense à 1984, un peu.
Assez incroyable.
La vérité, c'est le mensonge. Ouais. Alors, cela dit, il faut dire, si vous voulez, c'est une conception qui existe. C'est la conception anglo-saxonne de la liberté. Hein, c'est un peu venez comme vous êtes, comme chez McDo. Et c'est la conception multiculturelle. Je répète, pour pas qu'il y ait de malentendu, que le multiculturalisme, ça n'est pas la coexistence de plusieurs cultures, c'est leur coexistence à égalité. C'est-à-dire, effectivement, il y a en France des gens qui viennent de toutes origines. La seule question qui se pose, c'est nous n'avons pas un ADN très multiculturel dans le sens où nous avons un long passé d'assimilation. À Rome, fait comme les Romains, c'est un peu le contraire. Et le Conseil de l'Europe, si vous voulez, promeut cette vision qui est une vision purement anglo-saxonne de la liberté. Vous vous rappelez qu'à chaque fois qu'on fait une loi, et notamment l'excellente loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école, hein, qui est de l'avis général, une très bonne loi, eh bien cette loi est vilipendée dans la presse américaine, nous sommes des racistes, des islamophobes, etc. Donc il y a vraiment deux conceptions de la liberté qui s'affrontent, simplement le Conseil de l'Europe, qui rassemble quand même 47 États, on promeut une, et je trouve ça assez choquant de promouvoir le voile, si vous voulez, que quand des femmes se battent pour ne pas avoir à le porter. Et par ailleurs, si vous voulez, on nous dit qu'il faut lutter contre les discours de haine anti-musulmans. Excusez-moi, il y a aussi beaucoup de discours de haine anti-français, anti-occidentaux, anti-européens. J'aimerais bien qu'on lutte contre cela aussi.
Oui, bon. Non, oui. En tout cas, ça fait beaucoup réagir. Il y a en ligne avec nous un auditeur. Qui est en ligne ce matin ? C'est Christian d'Anglette. Hein.
Tout à fait.
Christian qui voulait vous interpeller, ma chère Elisabeth et mon cher Alexis, sur le mois sans tabac. Hein, c'est ça, vous vouliez parler du mois sans tabac.
Bonjour à tous. Oui, oui, alors écoutez, il y a quelques années, on a déjà conversé à ce sujet sur Sud Radio, et j'écoutais hier, et encore une fois, on oublie quelque chose de fondamental, c'est le dealer. Ouais. C'est-à-dire qu'on est encore en train aujourd'hui de dire aux gens il faut arrêter de fumer, de responsabiliser et ainsi de suite. Et à aucun moment, et je ne sais pas pourquoi, on parle des gens qui fabriquent les cigarettes. Donc vous savez de qui je parle, d'accord ? Et je trouve qu'on devrait commencer par là. C'est comme quand on arrête des dealers, hein, je suis désolé, on coupe l'herbe en bas du pied, pas au-dessus, si on veut que les gens éventuellement puissent, puisque ça coûte de l'argent à la sécurité, puisque des gens meurent, donc c'est très très dangereux apparemment la cigarette, de toute façon.
Donc moi, vous dites qu'il faut s'attaquer à l'industrie du tabac, mais alors il faudra faire la même chose aussi avec les producteurs d'alcool alors du coup.
Mais si vous... en fait...
Et de viande trop grasse.
Attendez, juste...
Christian,
évidemment, on peut... Oui, on peut alcool, on peut aussi bah, la ouais. malbouffe, on peut. Là aujourd'hui, on parle de la cigarette. Alors je pense ouais. que le sujet, ouais, il faut rester sur ce sujet-là. Vous voyez qu'on a fait des photos sur les paquets de cigarettes pour dissuader les gens. En fait, on leur a pas expliqué que c'était pas tout à fait pour ça, mais c'était surtout pour pas se faire attaquer, comme aux États-Unis. On vit sur un mensonge de la clope, excusez-moi le terme. Ouais. Et je voudrais, moi, j'aimerais que les journalistes ou Madame Lévy, que j'adore, poussent un coup de gueule sur ce genre de truc, parce que c'est important.
Alors, je sais pas, Elisabeth, comment vous réagissez à ce que dit
alors,
Christian
j'espère que vous allez quand même m'adorer, bien que nous ne soyons pas d'accord, parce que moi, ce que je pense au contraire, si vous voulez, c'est qu'il y a des choses qui sont à la fois bonnes, dans le sens où on aime bien manger des bonnes choses, ouais. du foie gras, des choses comme ça, c'est pas forcément très bon pour la santé. Ouais. Mais le plaisir, si vous voulez, ne peut pas, on peut pas supprimer tous les plaisirs, parce que la plupart des choses qui font plaisir, enfin beaucoup de choses qui font plaisir sont pas bonnes pour la santé. Pas toutes, bon. Hein, mais beaucoup.
Bon, imaginez...
Cher André.
Oui.
C'est ça.
C'est Christian.
Cher Christian. Pardonnez-moi, mais moi je crois justement à la responsabilité des gens, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'on interdise la cigarette et chacun prend ses responsabilités, voilà.
Bon, voilà, bah, imaginez une
mais
campagne...
Mais pour les jeunes, en revanche, oui. il faut quand même... Oui. Non, c'est-à-dire, il oui. y a une véritable politique à mener qui est une politique de prévention. Non seulement de l'alcool, du tabac, mais aussi beaucoup de l'alcool hein, chez les jeunes, parce que ça devient vraiment un gros problème. Je crois.
Bon, imaginez le Conseil de l'Europe qui a mené une campagne de communication. La liberté de choisir, c'est quelqu'un qui fume. Quoi. Hein voilà. Bon, allez, dans un instant, Sophie Pétronin, on va en parler. Est-ce que ça vous interpelle, le fait qu'elle soit retournée vivre là-bas, après la libération de 200 otages djihadistes? On va revoir ça dans un instant. Et puis toutes vos questions dans l'actualité. 0826-300-300.
Restez avec nous, 8h58.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. On va revenir ce matin avec Alexis Poulain et Elisabeth Lévy, dans un instant avec le factuel de Félix Mathieu, justement sur l'ex-otage Sophie Pétronin, qui est de retour au Mali après sa libération l'an dernier. On vous a demandé sur les réseaux sociaux si ça vous choquait. Pour l'instant, vous nous dites oui à plus de 89%. Vous dites que Macron a fait payer une rançon et mis en danger des personnes pour faire libérer cette femme convertie à l'islam et qui est rentré se faire soigner avant de repartir, honte totale. Vous dites qu'on a fait libérer des assassins pour cette dame, en tout cas vous êtes assez en colère sur les réseaux sociaux, vous voulez nous en parler et débattre avec nos éditorialistes, 0826-300-300.
Oui, donc appelez-nous, hein, évidemment, factuel avec vous Félix Mathieu, cette libération avait demandé un gros effort, c'est vrai, aux autorités françaises.
Oui, hein. Officiellement la France ne paye pas de rançon, on le sait, mais depuis longtemps notre pays est soupçonné en réalité de payer en toute discrétion. D'ailleurs, des djihadistes arrêtés au Mali ont déjà affirmé que plusieurs millions d'euros avaient été versés pour les otages français, dont Sophie Pétronin. Même l'armée algérienne, de son côté, après une opération militaire anti-djihadiste en décembre dernier, elle affirmait, l'armée algérienne, avoir mis la main sur une partie de cette rançon française. 80 000 euros retrouvés dans un bunker. En tout cas, les négociations pour faire libérer 4 otages, dont Sophie Pétronin, avaient impliqué la libération de 200 prisonniers djihadistes. Un chiffre, en fait, résume la complexité, la tension de cette intervention au Sahel. Elle a coûté la vie à 57 militaires français en 8 ans.
Oui, alors au mois de mars dernier, quelques mois après, hein, dans ce factuel, Félix, vous nous rappelez qu'après sa libération, eh bien, Sophie Pétronin, 76 ans, aurait donc rejoint le Mali au prix d'un périple quand même assez rocambolesque. Hein.
Oui, seul son fils était dans la confidence, lui qui pourtant à l'époque de sa détention reprochait à la France de ne pas en faire assez pour
et
libérer sa mère.
Et qui pleurait quand elle a été libérée, on l'a entendu tout à l'heure. Quoi.
Oui, donc là il aurait même accompagné, il a accompagné Sophie Pétronin qui selon eux déprimait depuis son retour en France. On lui refusait les visas, elle voulait rejoindre là-bas sa fille adoptive, une fille désormais âgée de 19 ans, une fille qu'elle n'arrivait pas à faire venir en France. À l'aéroport de Genève, révèle Mediapart, le fils de Sophie Pétronin aurait expliqué à des fonctionnaires de la police suisse aux frontières que sa mère en fait avait besoin de soleil. Ça serait passé un petit peu comme ça, puis arrivé au Sénégal, un bus les amène à la frontière malienne, frontière franchie en moto après notamment un échange de quelques billets. En tout cas, arrivée à Bamako où sa fille adoptive l'a rejointe, eh bien Sophie Pétronin n'aurait pas l'intention de regagner le nord du Mali, hein, là où elle avait été enlevée en 2016 dans la région de Gao. En tout cas, eh bien, la gendarmerie malienne a émis une note interne, un avis de recherche pour la localiser, pour pouvoir l'appréhender.
Mais, ça vous interpelle, ce retour sur place, Alexis Poulain et ensuite Elisabeth Lévy.
C'est étonnant, effectivement. Je crois que Sophie Petronin, il y a déjà vu, hein, quand elle avait été libérée, beaucoup de d'étonnement par rapport à son discours. Hein. Elle parlait d'opposants au régime, hein, et pas de djihadistes. Elle s'était convertie à l'islam. On a l'impression qu'elle vit là-bas, que sa vie était là-bas. Hein. Donc elle y retourne parce que finalement, c'est là-bas qu'elle a ses attaches, plus qu'avec son fils en Suisse. Donc c'est assez étonnant de voir ça. Alors après, c'est un choix personnel. Est-ce qu'elle met sa vie en danger? Sans doute. Est-ce que c'est responsable après les efforts qui ont été faits par la France pour la libérer? Non. Mais encore une fois, c'est son choix. Maintenant, que va-t-il se passer pour elle? Je ne sais pas.
Oui. Elisabeth Lévy.
Bah non, mais moi, je suis comme la plupart de nos auditeurs, je suis exaspéré. Maintenant, on ne pouvait pas le savoir. C'est la grandeur de nos pays. On ne laisse pas nos ressortissants dans des situations, dans une prise d'otage. On essaye de les récupérer, mais ça pose quand même la question du prix qu'on paye pour les récupérer. Mmh. Évidemment, personne ne pouvait savoir. Si on avait su que Sophie Petronin tenait tellement à rester au Mali parmi ses amis djihadistes, on n'aurait certainement pas monté cette opération et surtout pas libéré, parce que l'argent, c'est une chose. On a quand même libéré des gens dangereux pour elle. Alors, évidemment, ça met en rage. Maintenant, on ne pouvait pas le savoir avant. Simplement, j'ose espérer que s'il lui arrive quelque chose maintenant, elle se débrouillera. Je pense que c'est ce que pensent absolument 95% des Français aujourd'hui.
Non, mais surtout, on a libéré quand même. On a libéré, en fait, des djihadistes jugés plus ou moins dangereux sur place. Et n'oublions pas que nous-mêmes, la France, nous sommes présents, en fait, au Sahel avec des militaires français qui sont sur place et qui peuvent se retrouver face à ces djihadistes. Alors, qui ont été libérés. Et rappelons qu'il y a eu plusieurs dizaines de soldats français qui ont été tués là-bas en opération. Quoi,
47 exactement, oui. Je crois. Vous avez absolument raison, Patrick. Alors, peut-être je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est que on devrait avoir une discussion maintenant sur est-ce que c'est légitime de libérer des gens dangereux en échange de nos ressortissants. Il y a aussi, vous savez, ce débat arrive souvent en Israël où on a libéré des terroristes très, très dangereux pour récupérer des soldats et parfois des corps, simplement. Mmh. Et ça fait évidemment toujours de grands débats. Alors peut-être qu'effectivement, ça va remettre en cause cette politique, parce qu'encore une fois, donner de l'argent, beaucoup de gens disent que c'est un problème de donner de l'argent parce que, évidemment, ça fait monter la valeur tout simplement de l'otage.
Ouais. Surtout des ressortissants français qui deviennent des cibles. Hein.
Libérer des terroristes, c'est déjà un problème quand on a affaire à des gens reconnaissants. Et je me rappelle, on avait aussi libéré un couple de touristes, deux hommes qui étaient partis se balader je ne sais plus où c'était. Enfin, c'était dans le même... c'était aussi au Sahel. Hein. Il avait aussi fallu monter une opération. Alors, est-ce qu'il faut dire, écoutez, maintenant, les gens qui y vont, c'est à leurs risques et périls.
Dans ces endroits, qui sont dits dangereux, quoi.
C'est moi, ça, je serais assez pour. Serais assez pour dire que si vous allez faire du tourisme, si vous tenez vraiment à aller faire du tourisme dans ces endroits-là, eh bien, on vous prévient, la France ne se bougera pas, les soldats ne prendront pas de risques.
On rappelle d'ailleurs qu'il y a des zones d'alerte, hein, des zones rouges, quoi, voire rouges écarlates, hein, qui sont publiées des cartes par le ministère des Affaires étrangères, quoi. Bien sûr, le Quai d'Orsay.
Elles sont mises à jour hebdomadaire ou enfin assez souvent. Donc avant tout voyage, bien sûr, il faut se référer à ces cartes. Et c'est vrai que le problème de payer pour libérer des otages, ça met un prix sur chaque ressortissant français à l'étranger, dans ces zones-là en particulier. Donc c'est extrêmement délicat. Et les otages n'ont pas le même prix en fonction de leur nationalité. Ça, c'est clair.
Ouais. Bon, merci.
Il y a quand même un rapport à l'État de la part de cette dame qui est quand même terrible. Si vous voulez. C'est-à-dire, elle rentre en France, elle se fait soigner, etc. Elle râle parce qu'on ne lui donne pas le visa pour sa fille adoptive. Et elle repart... c'est au mépris absolument de tout ce qui a été fait. Il y a quelque chose, si vous voulez, par rapport aux gens qui l'ont libéré, à ceux qui ont vraiment fait l'opération, c'est quand même Oui, il y a quelque chose d'assez terrible et je comprends, je crois que les Français sont assez unanimes sur ce sujet, nos auditeurs.
Alors, est-ce qu'on pouvait la retenir contre son choix ici, puisqu'elle disait qu'elle déprimait et qu'elle voulait absolument retourner dans son pays d'adoption, en quelque sorte, hein, qui était le Mali
Mais non, justement, on ne peut pas la retenir contre son gré. C'est bien pour ça que je dis que c'est une décision personnelle. Après, ça l'engage. Et évidemment, par rapport à la désinvolture qu'on peut lui donner vis-à-vis des efforts qui ont été déployés par l'État français pour la sauver de ses ravisseurs. C'est bien tout le problème.
Allez, dans un instant, merci Elisabeth Lévy. Alexis Poulain, vous pouvez rester avec nous aussi. Dans un instant, comment l'hôpital s'est retrouvé à ce point-là? Pénurie de masques, pénurie de médicaments. Souvenez-vous, donc, pendant la crise en fait, du Covid. Et ensuite, les lits. Et aujourd'hui, des urgences qui ferment même la nuit.
Des personnels.
Oui, il y a eu un Ségur de la santé, il y a eu quand même revalorisation, mais peut-être qu'il faudrait voir les choses différemment, alors que la France occupait la première place, il y a quelques années, dans le classement de l'OMS des systèmes de santé. On disait avant le Covid aussi qu'on avait le meilleur système de santé au monde. Ouf. Aujourd'hui, où en
après
est-on?
Cuba, non?
Oui, le professeur Grimaldi est dans un instant avec nous, et il répondra aussi à vos questions au 0826 300 300.
Pour ce livre Manifeste pour la Santé 2022 aux éditions Odile Jacob. Restez là, 9h12.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h16, merci d'être avec nous ce matin. Manifeste pour la santé 2022 par le professeur Pierre-André Grimaldi, aujourd'hui professeur émérite en diabétologie au CHU Pitié-Salpêtrière et cofondateur du collectif Interhôpitaux. Et ce livre est aux éditions Odile Jacob. Bienvenue, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Pourquoi l'hôpital est malade? En quelque sorte, c'est ça en fait votre livre, hein, l'hôpital, mais pas que l'hôpital, c'est l'ensemble du système en fait de soins. On rappelle aussi d'ailleurs que vous étiez cofondateur du collectif Interhôpitaux, qui avait fait beaucoup parler de lui avant la crise du Covid, hein, où il y avait une sorte d'injonction au pouvoir public en disant faut s'occuper de nous maintenant en urgence, parce que sinon on ne va plus assurer. Alors c'était des services administratifs en quelque sorte.
Hein. C'est-à-dire qu'il y avait eu 1000 chefs de service et responsables d'unité qui avaient démissionné.
Oui.
Pour lancer l'alerte, avant le Covid.
Oui, juste avant le Covid.
Rappelez-vous qu'il y avait eu une épidémie avant le Covid. L'épidémie habituelle, annuelle, de bronchiolite, des nourrissons. Et pour la première fois, 30 nourrissons avaient dû être transportés à plus de 200 km de Paris parce qu'il n'y avait pas de place en réanimation pédiatrique, faute de personnel.
Oui, c'est faute
donc
de
c'était
personnel.
Avant le Covid.
Parce qu'un lit sur cinq inoccupé, faute de personnel en ce moment. C'est vraiment la situation que l'on a dans nos hôpitaux, ça?
Il y a un manque de personnel partout. Alors, plus dans les grandes villes ou l'Île-de-France, mais dans les grandes métropoles, il y a partout, parce que les conditions de travail sont très dégradées. Alors, c'est un cercle vicieux. Si vous arrivez et vous avez plus de malades à prendre en charge, vous en avez assez, et puis vous arrêtez, et puis et finalement, donc les conditions de travail sont très dégradées. La perte de sens au travail, parce qu'on a voulu traiter l'hôpital comme une entreprise. Bon, vous dites, vous êtes infirmière aujourd'hui en diabétologie, demain vous pouvez aller en néphrologie. Peut-être même des fois en chirurgie ou en réanimation. Mais c'est pas ma compétence. Et puis alors, vous voyez un malade un jour, mais le lendemain, vous n'êtes pas là. Donc, vous ne suivez pas. Donc, cette idée que l'hôpital est une entreprise comme une chaîne de production, où tout le monde peut remplacer, les infirmières peuvent se remplacer les unes les autres, où ça a détruit les équipes. Alors, la force de l'hôpital, c'était l'équipe. Comme dans le sport, comme dans la musique.
La cohésion, en fait.
La cohésion, ensemble, chacun joue sa partition dans un ensemble.
Mais alors, pourquoi on les a cassés, alors? Parce qu'il n'y avait pas suffisamment... On a dit beaucoup que ça venait aussi des 35 heures d'application de la réduction du temps de travail. C'est exact, ça? Oui, c'était, mais en même temps, c'était une évolution.
Non, c'est-à-dire, c'est la manière dont on a appliqué les 35 heures, c'est pas les 35 heures en soi.
Ouais.
C'est-à-dire, si vous dites aux infirmières, vous aurez plus de vacances, alors que c'est les femmes jeunes qui ont des... infirmiers aussi, qui ont des enfants... qui vont à l'école, vous aurez plus de vacances coïncidant avec les vacances des enfants, très bien. Mais la cohésion de votre travail hebdomadaire n'a pas changé. Tandis que là, on a dit non, pas du tout. On va, un, bloquer les salaires, vous avez 35 heures, et deux, on va faire varier les horaires de travail. Alors, une semaine, vous commencez à 8 heures, à 7 heures, la semaine d'après, vous commencez à 14 heures. Comment vous avez une vie de famille?
Oui.
Difficile.
Donc, on a réglé les 35 heures en disant, faut pas embaucher trop.
Oui.
faut pas donner plus de vacances extensives, donc on a détruit bricolé, les équipes, on a bricolé. Ouais. Donc, et sans embaucher suffisamment. Ouais. Donc le résultat est là. Alors ensuite, on a, vous le dit, l'hôpital devient une entreprise. Ce qui est vrai pour une petite partie d'activité, c'est-à-dire que vous avez une partie de chirurgie ambulatoire,
oui,
de cataracte ambulatoire, d'opération du canal carpien, de hernie. Bah, tout ça se fait à la chaîne. Maintenant, c'est un hôpital de jour. Vous rentrez le matin, vous ressortez le soir, vous êtes chez vous.
Ça, c'est plutôt efficace et ça marche bien.
C'est efficace et ça marche bien.
Ouais.
Et c'est un progrès.
Ouais.
Bon. Par contre, le personne âgée polypathologique, aujourd'hui, c'est fréquent avec l'âge. Hein. Ouais. Les situations complexes, les maladies chroniques, tout ça, ça ne marche pas du tout. On a fait un modèle unique. Et puis ensuite, est arrivée la crise de 2008, la crise financière, et on a dit on dépense trop. Serrons la vis.
Ouais.
Et la France a été parmi les pays où on a serré la vis le plus.
On a fermé des lits. Ça s'est traduit notamment aussi par
la fermeture régulière de lits. On a fermé, en 10 ans, on a fermé 100 000 lits, à peu près.
Alors, on a fermé des lits, mais aujourd'hui, on en a encore beaucoup. Mais il y en a 1 sur 5 qui est inoccupé.
Le problème des lits, il est surtout le problème des personnels compétents. Pour les gens dans les lits, on parle des lits, c'est pas un problème de lits, c'est un problème de personnel compétent. Ouais. Alors après, ça devient un cercle vicieux. Comme le malade n'est pas au bon endroit. Il a une insuffisance cardiaque, mais il est en rhumatologie. Alors, ça va. Après, il va revenir en cardiologie, mais on aura perdu du temps. Il aura été hospitalisé plus longtemps. Le système ensuite se désorganise tout seul.
Hein, et ça engendre des
filières
de
soins efficaces et avec des coûts. C'est-à-dire que un des paradoxes, c'est au fond, on est maintenant en quatrième position en pourcentage du PIB dans les dépenses, derrière l'Allemagne, derrière la Suisse, derrière les USA qui eux dépensent énormément. On est comme dans les pays riches. On se dit pourquoi ça se dégrade ? Ben parce qu'il y a cette désorganisation, parce qu'on a une médecine très prescriptive, beaucoup de choses très inutiles qui sont prescrites, répétées, d'examen, et parce qu'on a des coûts de gestion absolument incroyables. On est très au-dessus de la moyenne de l'OCDE, on est deuxième derrière les USA en pourcentage de coûts de gestion.
Alors ça, c'est global dans beaucoup des secteurs de l'administration française, des coûts de gestion, mais à l'hôpital, pourquoi ? C'est quoi ? Il y a trop de couches, trop de...
Quand vous dites, c'est pas seulement l'administration.
Non.
On a des coûts de gestion terribles, parce qu'on a un doublon, sécurité sociale et complémentaire, et assurance mutuelle et autres. Pour chaque soin, on a une double gestion. Donc on a un système mixte. Alors à l'hôpital, pareil, on a une logique mixte qui est folle, qui est on veut vous gérer comme une grande surface, et en même temps, vous avez des contraintes budgétaires et des normes budgétaires en permanence. Donc vous avez une suradministration. On a 30% en plus de personnel administratif que les Allemands.
En fonction des actes, ça veut dire que c'est un manque à gagner pour l'hôpital ou un manque à gagner pour la sécurité sociale.
C'est une histoire folle. On a mis un système de tarification de l'activité qui fait qu'on dit, on envoie aux soignants et aux directeurs augmenter l'activité. Au lieu de faire un séjour, faites-en deux. Faites revenir les malades. Bon, comme une activité, vous vendez comme une entreprise, vous cherchez à vendre. Mais c'est la Sécu qui paye. Donc on devrait avoir une logique qui est tout ce qui est nécessaire aux malades, au moindre coût pour la collectivité. Or, c'est pas du tout ça qu'on envoie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, vous codez, c'est-à-dire vous faites une facture maximale à la Sécu. Donc on embauche des gens pour rédiger les factures les plus chères possibles à la Sécu. Laquelle met des contrôles. Alors, vous parlez de bureaucratie, vous mettez des contrôles. On sort les dossiers, on valide les dossiers.
On freine.
Bon, alors, on retoque, on dit, ça va pas. Alors, on porte plainte, on discute. Bon, c'est un coût bureaucratique invraisemblable, à la fois de marchandisation et de bureaucratisation. Bon. On a les deux.
Professeur Grimaldi, vous apportez quelques solutions, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Comment aussi on en est arrivé à avoir des urgences qui vont fermer la nuit et qui ferment la nuit en France aujourd'hui. Ça, c'est quand même c'est rarissime. Ça vient d'arriver à Draguignan, à Laval. Je crois qu'il y a un autre hôpital qui est concerné. Comment peut-on arriver à cette situation ?
Les conditions de travail sont telles que les gens ne viennent plus. Les urgentistes quittent l'hôpital. Et quand vous n'avez plus le personnel, vous dites il faut fermer. Donc, il faudra aller à 50 km ou à 80 km, aller à Rennes. S'embouteille.
Oui.
Donc, les gens sont sur des brancards.
Oui.
Alors, il y a trois secteurs qui sont complètement dans une crise. Dans la crise, il y a encore plus en crise. Il y a la pédiatrie qui est en crise. Je vous ai parlé de la bronchiolite.
Tout à l'heure.
Il y a la psychiatrie où beaucoup de malades psychiatriques sont maintenant soit dans la rue, soit en prison. On a abîmé les secteurs psychiatriques avec une vision, alors là, la vision marchande dans la psychiatrie, vous voyez, c'est... Et puis on a les urgences. Pourquoi les urgences ? Parce qu'on est au carrefour de deux crises. La crise de l'hôpital, qui fait qu'on a diminué les lits, et donc vous devez être hospitalisé, ben, il n'y a pas de place. Vous êtes sur un brancard, ou bien on vous met dans un service qui ne correspond pas à vos besoins. Et puis c'est la crise de la ville. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de permanence des soins en ville, ou une permanence...
Plus de médecins, le soir, surtout, à partir d'une certaine heure.
Vous ne pouvez plus organiser une réponse aux urgences en seul dans votre cabinet. Il faut un travail en équipe. Or ça, c'est un problème historique en France. On est très en retard dans la construction d'un service de médecine de proximité. Il y a les maisons de santé, il y a les centres de santé, mais c'est quand même très minoritaire, hein, c'est 15% seulement. Là, on est très en retard. Il faudrait des maisons de garde, parce que beaucoup de gens vont aux urgences...
Pour des bobos, mais pour parfois
être,
la nuit.
Mais pour être vu, ben oui, mais c'est difficile
de
savoir.
Il y a des choses, ouais, oui, c'est ça.
Pour être vu même par une infirmière.
Vous avez une gastro-entérite, mais est-ce que vous savez si c'est grave ou pas ? Bon, donc, il faudrait qu'il y ait des maisons de garde avec des professionnels de ville, travaillant en équipe, ayant derrière l'hôpital, mais que l'hôpital ne voit que ce qui relève des urgences hospitalières. Au fond, c'est un peu ce qui s'est passé lors de la première vague du Covid. Tout d'un coup, aux urgences, les conditions de travail semblaient adaptées. Que des malades graves ou des malades Covid avec deux filières séparées, mais plus les gens qui disent ben, « j'ai pas trouvé de généraliste, je viens vous voir
».
Donc là, on est, les urgences sont au carrefour de deux crises.
Hein,
évidemment, donc, ça casse.
Et on n'a pas suffisamment formé de médecins, donc c'est lié aussi à ça, c'est-à-dire qu'on avait un problème de personnel, mais il y a une trentaine d'années, on disait « non, mais si on produit, si on fournit trop de médecins, enfin... En règle générale, hein, chirurgien, médecin, spécialiste, etc., ça va inciter à faire plus de dépenses également.
Exactement. On disait que c'est la pléthore médicale.
Oui.
Et jusqu'en 2003, la Sécurité sociale a financé des médecins pour qu'ils partent en retraite anticipée.
Oui.
10 000 médecins sont partis en retraite anticipée parce qu'à l'époque, on parlait de pléthore. Parce qu'on a une logique qui est folle de traiter, encore une fois, la santé comme une marchandise. C'est-à-dire qu'on va mettre des médecins, donc il va faire revenir les malades, donc il va les voir régulièrement, donc il va faire des ordonnances. Supprimons les médecins, il y aura moins de malades.
Mmh. Ah oui, d'accord.
Bon, c'est une drôle de... Et au lieu de dire comment on travaille en équipe et comment on sort d'un paiement à l'acte où tout est payé à l'acte. Et pour... Alors, comme on met une consultation à 25 euros, bah, vous voyez le malade 15 minutes, puis après vous faites une longue ordonnance. Qu'est-ce que vous voulez, c'est pas adapté du tout. Alors ça peut être adapté à une maladie aiguë simple, c'est pas adapté à une maladie chronique. Où les malades, il faut peut-être les voir tous les 6 mois, certains tous les ans, d'autres plus souvent, d'autres plus longtemps. Donc il n'y a qu'un forfait qui peut répondre à ça. Donc notre paiement à l'acte, qui a été comme la tarification à l'activité, est adapté à une partie de la médecine, mais pas du tout à la maladie chronique, pas aux choses complexes. Et donc on est resté là. Alors les médecins ont leur responsabilité hein, dans cette situation.
Oui, pourquoi ?
Il n'y a pas de l'administration, parce qu'eux-mêmes demandent de lutter contre le pléthore médical et eux-mêmes sont accrochés au paiement à l'acte.
Oui.
Ça faisait unanimité, hein, droite, gauche, gestionnaire de la Sécu, médecin, le conseil de l'ordre, tout le monde était d'accord.
Bon, bah, comment vous voyez l'hôpital et puis la santé, notre système dans un instant ? C'est ce que vous allez nous dire, hein, professeur Grimaldi. Et puis on fera aussi un petit peu un point peut-être aussi sur l'épidémie, hein, sur le Covid-19 également, où il y a des résurgences et puis ensuite il y a discussion entre est-ce qu'il faut une troisième dose ou pas et puis l'efficacité du vaccin. On voit ça dans un instant.
Et puis ce livre, un manifeste pour la santé 2022 aux éditions Odile Jacob, on revient dans un instant, 19h27.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h31, manifeste pour la santé 2022 aux éditions Odile Jacob avec le professeur André Grimaldi qui est avec nous, professeur émérite de diabétologie au CHU Pitié-Salpêtrière.
Oui, on va voir quelles sont les solutions éventuellement. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'il y aurait de la formation à faire par exemple pour les infirmiers et les infirmières, ce que vous avez évoqué à l'instant. Mais avant ça, peut-être un point sur le Covid. Là. Comment vous voyez, vous, la situation en étant sur le terrain, à la Pitié-Salpêtrière et puis spécialiste quoi. Aussi.
Non, alors,
spécialiste, pas du Covid, hein, bien sûr, mais spécialiste de la santé.
Par rapport à beaucoup de ce qui est dit, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas infectionniste.
C'est vrai.
Donc, ce que je perçois, c'est que ce virus continue à circuler. Et dans les situations hivernales, il a tendance à circuler plus. Alors, le vaccin est à ce jour très efficace pour éviter les formes graves.
Oui.
C'est pas 100%, mais néanmoins très efficace. Par contre, il ne fait que diminuer par 2, par 3 ou par 4 la contagiosité, mais il ne la supprime pas.
Ouais.
Donc, être vacciné n'empêche pas de maintenir les gestes barrières.
Ouais.
Le masque, le lavage des mains. Donc, voilà. Et tant qu'il circule, il mute. Pour le moment, on n'a pas de mutants qui résistent au vaccin.
Oui, c'est ça.
On a ça, pas... c'est un danger. Hein.
Oui, c'est ça, parce qu'on avait cette crainte il y a quelques mois qu'il y ait une mutation en fait très forte et qui passe au-dessus en fait des vaccins et des traitements, parce alors, qu'on c'est... cherche aussi des traitements dans le même temps.
C'est pas le cas. Néanmoins, ouais. Si on est immunodéprimé, si on est âgé, il semble que le vaccin sera moins efficace. D'où la nécessité de l'histoire de la troisième dose.
Ouais. Hein,
c'est-à-dire de relancer le taux d'anticorps neutralisant pour maintenir une immunité.
Et y compris, alors, pour les personnes fragiles, mais les autres également, quoi. Les autres personnes pour, plutôt
pour
en bonne
moment,
santé.
Pour le moment, essentiellement, ce qui était décidé en France, et je crois que c'est raisonnable, les personnes âgées et les personnes fragiles qui sont immunodéprimées, hein, dialysées.
Mais pour vous, ça vous semble quand même inéluctable que ça aille beaucoup plus loin que bon, les personnes qui ont eu leur vaccin il y a 6 mois, 8 mois, etc. Parce
possible.
Que ça s'émousse au fil du temps, c'est ça l'efficacité.
C'est ce qui semble. Ouais. Et donc, il est tout à fait possible qu'il faille, comme pour la grippe, une vaccination annuelle, régulière, tant que ce virus ne se transforme pas en un virus qui donne le rhume. Ouais. Et auquel cas, il fera surtout plus vacciner et avoir le rhume et terminer. Hein. Maintenant, on
c'est,
a appris...
c'est ce qui peut se produire, quoi, dans l'évolution.
C'est ce qui peut se produire. Ouais. Mais il peut aussi se produire qu'il devienne... Là, c'est un problème. Le mutant le plus contagieux l'emporte.
Ouais.
Si ce plus contagieux se trouve être moins grave, c'est très bien. Et si jusqu'à présent, c'est plutôt l'inverse.
Ouais, ouais. Hein.
Donc, voilà.
Dans les hôpitaux, comme à la Pitié-Salpêtrière, on respecte aussi toujours les gestes barrières, parce que bien souvent, on sait qu'il y avait malheureusement des maladies qui se déclenchaient en fait à l'hôpital, parce que contamination, quoi. Bah,
notamment la grippe chaque année. C'est vrai qu'avant il n'y avait pas de gestes barrières, et non seulement à l'hôpital, mais surtout dans les EHPAD, du personnel, pas seulement soignant, mais le personnel secrétaire ou autre, amenait le virus dont pouvaient mourir des personnes très âgées, fragiles. Donc ça, c'était quand même choquant. Donc là, on a aussi une culture à reprendre sur la vaccination obligatoire des soignants. Vous savez qu'il y a fait polémique et dans les territoires d'outre-mer encore plus, alors que c'est une règle éthique élémentaire. Hein. Vous ne pouvez pas aller à l'hôpital pour vous faire opérer et qu'on vous colle le Covid, et que ce soit des soignants qui vous le codent.
Professeur Grimaldi, s'il y avait, pour revenir à votre livre, qui est un état des lieux et un manifeste pour une santé à l'occasion là, d'ailleurs de la présidentielle, s'il y avait 3 priorités à appliquer pour réformer et améliorer notre système de santé.
3 priorités.
Oui, parce que non, mais il y a beaucoup de pistes dans votre livre.
Mais parce qu'elles se tiennent.
Oui.
La première, c'est qu'il faut cesser de traiter l'hôpital comme une entreprise avec une tarification à l'activité, comme vous vendez des boîtes de petits pois sur le supermarché. Mmh. Il faut qu'il y ait une dotation et que cette dotation soit adaptée aux besoins et qu'elle soit co-gérée avec les soignants.
Oui, mais alors là, on peut vous dire, il y en a certains qui vont mal gérer, et puis alors pendant que les autres font des efforts. Quoi.
Oui, bah alors du coup, il faut que cette dotation soit modulée. En fonction de l'activité, un certain nombre de critères. C'est-à-dire, vous n'avez pas une rente à vie. Et les critères doivent être simples. Vous avez un budget à gérer. Et je vous donne un exemple concret. Je vois un malade qui avait cancer du pancréas, grave. On me l'envoie en consultation. Un taux de sucre dans le sang très élevé. Si je veux être rentable, je l'hospitalise tout de suite. Il n'était pas en mauvaise santé, il en avait assez d'hospitalisation. On l'a géré en ambulatoire, il a pu rentrer chez lui, on lui a appris à faire les piqûres d'insuline, il m'a envoyé ses résultats par télémédecine. Bon, et il n'a jamais été hospitalisé.
Ouais.
Bon, mais j'ai fait perdre de l'argent à mon hôpital.
Oui, c'est ça.
J'ai fait gagner à la sécu. J'en ai fait gagner au malade qui, lui, était content en qualité de vie ou de fin de vie. Hein. J'ai fait perdre de l'argent à mon hôpital. Bon. Donc, si j'avais un budget à gérer...
Mais il y a des sanctions contre ça. Vous pouvez être sanctionné.
Ben, pas du tout. C'est-à-dire qu'au contraire, tout le monde aurait dit, mais vous hospitalisez. Même mon directeur aurait dit, mais Grimaldi, m'a dit, qu'est-ce que vous faites là? Ce malade, il doit être dans un lit. Quand on il dit, mais il faut que ça tourne. Faites sortir les malades et faites rentrer. Ben, lui, il est gestionnaire. Il dit, si on est en faillite, ben, on va diminuer quoi quand on est en faillite? Ben, là, un investissement. Et puis deux, on diminue le personnel. Et comme on dit, le personnel, les conditions se dégradent.
Donc d'où, dans... d'où la
oui,
crise
c'est,
actuelle.
C'est quoi. La roue du hamster.
Ouais, ouais, ouais.
Hein, et puis un jour, bon, le hamster, ce qu'elle tombe d'ajout.
Ça, c'est
premièrement,
c'est
on arrête point. Avec cette tarification d'activité ouais, une dotation, et une dotation qui soit à la hauteur des besoins. Parce que ouais, si on vous met une dotation de misère, comme on fait pour la psychiatrie, il faut que cette dotation soit co-gérée.
Ouais.
Et qu'elle soit évolutive, ce que vous dites. Autrement, vous avez créé une rente. Il faut qu'elle soit évolutive sur des critères simples. Combien de patients vous avez de nouveaux patients, quelle est leur gravité, quelle est leur durée de précarité dans la population.
Ouais.
Donc des critères très simples, et puis on fait évoluer votre budget annuel que vous avez en co-gestion. Parce que là, c'est le tarif qui guide la pratique, là. Ouais, c'est ouais, complètement fou.
Ouais.
Deuxième chose, il faut que les infirmières elles aient une carrière. Quand vous êtes 5 ans dans un service en réanimation, vous êtes infirmière de réanimation spécialisée. Vous avez eu des formations et vous avez un statut et un salaire. C'est pareil pour toutes les spécialités.
Oui, c'est-à-dire que ce soit reconnu, quoi. C'est comme une validation d'acquis, en quelque sorte.
C'est ça. Validation des acquis d'expérience, ouais, ça suppose une stabilité dans la discipline.
Bien sûr.
Hein, vous êtes en oncologie, en hématologie, disons 5 ans.
Ouais.
Et vous avez eu des formations. Et ben, vous avez une augmentation de salaire très significative. Hein, parce qu'en salaire des infirmières, la France était en 28e position sur 32 pays de l'OCDE. Alors, on est passé en 16e position après le Ségur. On n'est même pas à la moyenne. Hein. Par contre, en frais de gestion, encore une fois, on est très au-dessus. En frais de gestion, on est deuxième après les Américains.
Oui. Bon, donc ça, c'est...
Deuxième point.
Oui.
Puis, troisième point, il faut développer centres de santé pluriprofessionnels où travaille en équipe. En ville aussi, on doit travailler en équipe. Infirmières, médecins, kinés, psychologues, doivent travailler en équipe. Soit dans des centres de santé, c'est un statut équivalent fonctionnaire, soit de médecine libérale, mais en équipe. Donc ça suppose qu'on remet en cause aussi un paiement à l'acte pour ce qui ne relève pas du paiement à l'acte, la maladie chronique.
Je reviens aussi sur les infirmières libérales, cette fois-ci. Ça veut dire qu'il faut leur donner la possibilité de faire d'autres actes que
ceux
qui font.
Oui, absolument, mais à condition, encore une fois, de travailler en équipe.
Oui.
Parce que si c'est chacun, ce qu'on fait en France, c'est chacun dans son coin. Les infirmières libérales sans les médecins sans les infirmières libérales, la ville sans l'hôpital. Ça dysfonctionne
oui,
complètement.
Oui, mais on ne peut pas les obliger aussi à travailler complètement ensemble sous un même toit. Ça peut être une coordination, c'est ça, une collaboration.
Ça peut être une collaboration, mais il faut que ce soit une effective collaboration, pas seulement je t'envoie le malade. Est-ce qu'on a un dossier partagé? Est-ce qu'on partage le dossier? Est-ce qu'on a des réunions communes?
Ça se fait comme un petit peu, non?
Ça commence, on est en retard. Mais les maisons de santé, ça existe. Les communautés professionnelles de territoire, c'est ce que vous dites.
Ça
se met en route. Mais c'est très laborieux parce qu'on est chacun dans son business. Et tant que vous êtes payé à l'acte, vous n'avez pas trop envie de déléguer à l'infirmière. Vous dites, celui-là, il n'a pas grand-chose. Je vais le voir, ça me fait 25 euros alors que je suis mal payé. Donc, il faut sortir d'un paiement à l'acte pour pouvoir réellement partager.
Oui, mais alors, comment on sort les auditeurs se posent la question de sortir du paiement à l'acte. Oui, mais alors, comment après
quelle alternative?
Voilà, c'est ça.
Vous avez deux solutions. Vous pouvez dire, un patient diabétique, vous le voyez pour l'année, il est inscrit dans votre consultation, c'est telle somme pour l'année. Il y en a qu'il faudra voir souvent, il y en a qu'il faudra voir plus lentement. Vous avez un cahier des charges, il y a un bilan annuel qui doit être fait. Mais si le malade se soigne bien, il n'a pas besoin de vous voir pour renouveler l'ordonnance. Finalement, pendant la crise Covid, il y a eu des malades qui ont perdu de chance parce que ça n'allait pas et ils ne consultaient pas. Mais il y avait aussi des malades qui allaient voir leur pharmacien qui renouvelait l'ordonnance.
Oui, alors c'est vrai.
Pour prendre leur antihypertenseur,
tous les pharmaciens ne sont pas d'accord. Hein. Ils disent, votre ordonnance est périmée, retournez.
Mais pendant le Covid, ils avaient le droit.
Oui, c'est vrai.
Donc, on prend votre tension. Vous prenez vous-même votre tension. Elle est bonne. Vous continuez votre traitement. Puis vous voyez votre médecin une fois par an. Mais ça suppose que votre médecin, il n'est pas payé à l'acte. Donc, il faut pouvoir sortir pour une partie de la médecine. Soit ce qu'on appelle la capitation, c'est-à-dire un forfait annuel, soit une dotation, si c'est un centre de santé ou une maison de santé, vous avez combien de patients qui sont inscrits? Quelle est la gravité générale? Si c'est en médecine de premier soin, primaire, c'est à peu près la même somme. Vous avez une somme globale que vous co-gérez.
Professeur Grimaldi, il y a un autre sujet aussi dans le recrutement des jeunes pour aller vers les professions médicales. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une crise de vocation en disant... dans la médecine, et notamment, je pense aux généralistes, peut-être aussi un petit peu aux infirmières, mais aux généralistes, c'est beaucoup d'heures, et finalement, on n'est pas forcément toujours très bien rémunéré. Ce qui fait que certains ne vont plus vers cette profession.
Il n'y a pas de crise de vocation. Ça, c'est complètement faux.
Oui.
Les jeunes ont, et c'est logique, c'est inhérent à l'espèce humaine, sont attirés par les métiers du soin.
Ouais. C'est vrai qu'au concours de médecine, il y a toujours énormément de jeunes
énormément
et peu d'élus. Quoi.
Et pour, pareil pour les élèves infirmiers.
Ouais, ouais.
Énormément de candidats.
Ouais.
Et vous pensez à Médecins sans frontières, Médecins du monde. Mmh. On a eu les prix Nobel pour ça. Donc l'idée du soin et de l'altruisme fait partie de l'espèce humaine et c'est une bonne chose.
Donc oui, quand on parle de crise de vocation, il n'y en a pas.
Non, il n'y a pas de crise de vocation. Non, il y a une crise qui est que le vécu de ces études, c'est une école de démotivation. Vous voyez des conditions de travail dégradées, vous voyez des normes, vous perdez toute liberté, vous dites à la fin, vous dites, mais pourquoi je fais ce métier? Pourquoi j'ai choisi ça? C'est pas pour ça. C'est pas ça que je voulais faire.
Par exemple, sur la liberté d'installation des médecins.
Sur beaucoup de choses. Hein, l'idée de... Vous voyez à l'hôpital un travail en équipe, alors maintenant dégradé. Mais avant, vous voyez un travail en équipe, et après vous vouliez le faire en ville. En ville, c'est pas possible. D'accord, on vous dit vous allez dans un désert médical, mais si c'est le désert en général, comment vous allez avec vos enfants, votre épouse, quelles sont les conditions de travail qu'on vous propose? Donc ça suppose de repenser de cette vocation ce qu'on en fait. Moi, ce que je vous dis, c'est que les études de médecine et le métier, de même que les infirmiers, sont des écoles de démotivation auxquelles il faut résister. Alors moi, j'appelle les jeunes à résister.
Ouais.
Gardez votre motivation que moi j'ai gardée toute ma carrière.
Que vous avez encore aujourd'hui, ça se sent dans vos propos.
Un peu, j'ai envie de défendre ce que j'ai connu. Ouais. Moi, j'ai connu une fantastique liberté à l'hôpital, avec un sentiment de progrès continu, à la fois scientifique et social.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez l'impression que ça patine.
Non,
quoi.
Les jeunes vivent un sentiment de régression.
Mais les jeunes,
sauf
ce sont
la recherche.
Les internes, quand
internes, chefs de clinique, juste après l'internat,
qui
restent à l'hôpital, qui tiennent l'hôpital. Hein, l'interne, les jeunes chefs de clinique, c'est eux quand même qui tiennent l'hôpital. Ils ont, et les praticiens hospitaliers jeunes, ils ont le sentiment de vivre une régression.
Donc, dans
un sentiment en même temps de perte de liberté. Nous, on avait un sentiment de grande liberté, de s'organiser comme on le souhaitait et d'avoir. Moi, je me rappelle d'un directeur qui était au service. Je lui ai dit, écoutez, on a 50 lits, c'est beaucoup trop. On passe à 35, on garde les infirmières. Monsieur Grimaldi, on y va.
Oui.
J'avais un directeur qui nous écoutait, à qui on parlait médecine. Là, maintenant, c'est nous qui rendons des comptes. Comment ça se fait que vous êtes moins rentable qu'avant? Comment ça se fait qu'il y ait moins de séjours chez vous? Comment ça se fait que les malades restent plus longtemps? Et vous êtes culpabilisé, vous devez rendre des comptes.
Oui. Allez, on va poursuivre avec vous encore quelques minutes, parce que c'est passionnant. Manifeste pour la santé 2022 aux éditions Odile Jacob, le professeur Grimaldi. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. 0826 300 300.
Vous êtes peut-être médecin ou en tout cas infirmière, vous voulez poser votre témoignage. Eh bien, on vous attend au standard. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h47, c'est un peu la refonte totale de la santé. Manifeste pour la santé 2022 par le professeur André Grimaldi aux éditions Odile Jacob. Et vos appels au 0826-300-300. Et c'est Pierre de Paris.
Oui, Pierre de Paris.
Qui est avec nous.
Bonjour Pierre.
Oui, bonjour à tous. Écoutez, oui, je voulais apporter un témoignage et il faut que les auditeurs et les Français sachent que la situation est vraiment catastrophique dans les hôpitaux. Alors, on a parlé des urgences, de la psychiatrie. Moi, je voudrais attirer votre attention sur la gynéco-obstétrique. Ma fille est interne en gynéco-obstétrique dans un grand CHU de province. Et là, elle vient de vivre 6 mois affreux avec un effectif de 50% en moins des praticiens hospitaliers. Notamment des jeunes femmes qui étaient enceintes, qui avaient des jeunes enfants, donc qui ont pas pu être présentes pendant 6 mois. Et avec, en résultat, en fait, un burn-out d'un interne qui a failli se suicider, qui a été arrêté au dernier moment, qui a changé de filière, et des journées de 8h à 20h avec plusieurs opérations, des fausses astreintes, c'est-à-dire que quand vous êtes d'astreinte, par exemple, on vous appelle s'il y a besoin de vous, et là, on vous dit non, vous venez le... matin, en plus de vos 80 heures par semaine, vous venez le samedi matin jusqu'à 2 heures d'après-midi, vous venez le dimanche jusqu'à 2 heures d'après-midi, et vous vous retrouvez avec des quotas horaires qui sont incroyables. Donc, si vous voulez, la situation, elle est dramatique, et là, il faut qu'il y ait un mouvement national des chefs de service, des internes, en mettant tout sur la table. Alors, petit exemple, c'est qu'on a fait appel à des médecins étrangers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des médecins italiens qui viennent en France, qui ont des primes d'installation de 50 000 euros et qui sont exemptés d'impôts pendant 5 ans. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu ouvrir le nombre de médecins.
Des médecins italiens, bah, ah oui, moi je ne savais pas si parce que voilà, je sais qu'il y avait des. Oui. Il y a
Dans les déserts médicaux, on fait appel à des médecins italiens et donc qui ont passé le CN, hein, mais qui ont été voilà. Mais ça veut dire que on marche sur la tête, si vous voulez. Et donc il y a urgence. C'est pas compliqué à gérer. Hein. Moi je crois que c'est pas du tout compliqué à gérer. Ça a été bien géré pendant des années. C'est-à-dire que
pourquoi ça s'est déréglé selon vous, Pierre?
Ben moi, c'est très simple, c'est qu'il y a une incompétence totale au niveau de l'administration pour gérer, comme le disait le professeur Grimaldi. Avant, les directeurs d'hôpitaux étaient à l'écoute des médecins. Maintenant, les directeurs d'hôpitaux, ils sont la doigt sur la couture du pantalon de l'ARS, et l'ARS réfère au ministère, et on veut gérer tout sur des tableaux Excel au niveau du ministère, ce qui n'est pas possible. Quand vous avez une maternité et qu'il y a 50% d'effectifs en moins, il faut gérer localement. C'est du local. C'est pas du national.
Voilà. Bah, merci Pierre pour votre témoignage. Non, restez en ligne avec nous. Peut-être que le professeur Grimaldi sur ce témoignage. Bon, alors il faut pas généraliser, mais quand même.
La situation est effectivement dramatique. Hein.
Ouais.
La logique dont je vous parlais s'est cassée en 2017.
Ouais.
En 2017, pour la première fois, les activités n'augmentent pas, mais on continue à baisser les tarifs de 1%. En 2018, on continue à baisser et ça casse. Hein, ça s'est cassé complètement en 2019. Donc maintenant, après, il y a eu l'illusion du Covid, parce qu'on dit on a tenu, il y a eu une espèce d'euphorie.
Ouais,
quoi,
oui,
hein.
C'est ça.
On a tenu,
c'est
la preuve qu'on tient. Bon, maintenant, c'est en train de casser pour de bon. Hein. C'est-à-dire, dans certains services, plus de la moitié des lits fermés, dans des services aussi importants que le neurovasculaire, les accidents vasculaires cérébraux.
Il
y a une tribune là, des collègues chefs de service neurovasculaire qui sonnent l'alerte, c'est-à-dire qui trient les malades. Là, le tri, on va y être.
Et ça, indépendamment du Covid, bien
alors,
sûr.
Quoi, le problème, c'est de...
Ça a été aggravé, quoi.
Voilà, attention. Bah, le Covid, c'était un révélateur et ça a créé une illusion qui a été la première vague où on a vu une mobilisation exceptionnelle. Bon, et qui rappelle d'ailleurs la motivation dont vous parliez, les valeurs dont vous parliez.
Ouais.
Hein. Attention à dire, c'est l'administration. Oui, on a un management, mais simplement, on a décidé en 2004 puis 2008 d'avoir tout la tarification à l'activité, la logique marchande, et puis à partir de 2008 on a dit on va serrer les budgets, hein, et tous les gouvernements, y compris le précédent quinquennat, hein, c'est les trois quinquennats, ont serré les budgets plus que les autres pays. Donc, on met une logique à la fois marchande, vous devez vendre des séjours, et en même temps vous avez des tarifs qui sont de plus en plus réduits. Bah, on casse la machine. Les directeurs, ils ont fait qu'appliquer. Ils ont appliqué quoi, je vous disais, hein, effondrement de l'investissement, ce qui est dangereux pour l'avenir. Et deuxièmement, réduction de personnel. Après, le cercle vicieux se met en place. C'est-à-dire que les anesthésistes partent parce qu'ils sont mieux... Si on vous gère comme une clinique commerciale, ben vaut mieux aller dans une clinique qui au moins sélectionne.
Sauf que dans les cliniques, c'est pas toujours aussi rose. Hein.
Nous avions
des sages-femmes ce matin en ligne qui nous disaient, par exemple à Toulouse, puisqu'il y a un mouvement de grève qui a été entamé en fin de semaine dernière, qui se poursuit ce matin, où elles sont moins bien payées, disent-elles, que dans l'hôpital public.
C'est clair, vous aurez cette logique. Bah, du commerce qui fait que y a ceux qui arrivent, ceux qui arrivent pas, ceux qui ferment, ceux qui sont rachetés. Ça peut pas être ça la santé. Hein. Un service de santé, ça peut pas être ça.
Est-ce qu'il faut mettre fin à cette surenchère salariale justement sur l'intérim médical?
Bah, oui, évidemment. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait, si on veut qu'il y ait un service public et les gens puissent travailler ensemble en équipe sur un territoire. Vous pouvez pas à un endroit où on gagne deux fois plus qu'ailleurs. Vous aurez pas d'équipe.
C'est ce qui se passe dans les urgences. Il y a des urgentistes. Oui, bah non, mais je serai pas là parce que je vais aller travailler grosso modo 100 km plus loin parce que je suis mieux payé.
Pas seulement pour les urgentistes, mais pour les anesthésistes notamment, les chirurgies. Vous aurez des listes et vous avez des anesthésistes qui vous diront « mais moi je suis intérimaire ». Alors évidemment, penser à ça pour la maladie chronique, c'est complètement impensable.
Ouais.
C'est une équipe stable. Mais pour des gestes aigus techniques, vous pouvez dire « ben moi je me vends ». Là, je suis à l'hôpital, là, je suis en clinique, je vais tantôt à l'hôpital, mais je regarde le plus offrant. Alors, si on pousse à ça, si on dit « mais la santé est un business comme un autre, une industrie », on a inventé le terme « médecine industrielle », médecin ingénieur », hôpital entreprise ». Bon, bah, si c'est ça... C'est ça qu'on a mis en route quand même.
Hein. À propos d'industrie, vous avez un chapitre qui concerne aussi l'industrie pharmaceutique.
Alors là, c'est plus compliqué pour une raison qui est que c'est à l'échelle internationale. Vous ne pouvez pas raisonner seulement à l'échelle nationale. Mais enfin, il y a quelque chose qui est incroyable, qui sont les médicaments anciens, essentiels, hein, qui restent l'essentiel de la prescription. Il n'y a pas que les médicaments nouveaux. En cancérologie, en cardiologie, l'hypertension, c'est que des médicaments anciens. qui sont ce qu'on dit génériqués, c'est-à-dire qu'ils sont tombés dans le domaine public. Du coup, ils sont plus rentables pour l'industrie. Donc, les principes actifs ont été délocalisés en Chine et en Inde, pour 80%. Il n'y a plus que les façonniers en Europe, ceux qui font les ampoules, les comprimés, etc. Et il y a des ruptures de plus en plus fréquentes. Chaque année, on double le nombre de ruptures. Vous avez un anticancéreux, ben on l'a plus. Oh ben on va vous donner un équivalent, enfin qui n'est pas tout à fait pareil, et puis effet secondaire, et puis donc ce qu'on appelle perte de chance, c'est une manière voilée de dire complications graves ou mortalité, ça ne se voit pas, c'est des malades, bon, et c'est de plus en plus fréquent. Donc il est indispensable que, y compris on a vu le curare, on a manqué du curare,
hein,
ou
c'est
un médicament pendant la pandémie. Donc il est indispensable qu'en Europe et en France, on ait un pôle public pour avoir les médicaments essentiels tombés dans le domaine public. C'est plus rentable pour l'industrie. L'industrie, elle fait du business, très bien, mais ça, on en a besoin.
Oui, mais alors, comme nous sommes, on va vous répondre, oui, mais nous sommes déjà endettés, la dette publique est énorme et colossale, donc on ne peut pas non plus...
Mais ça coûte beaucoup plus cher. Hein. Les ruptures de médicaments coûtent beaucoup plus cher à la sécurité sociale.
Oui, oui. Hein,
mais on ne peut pas les contraindre ?
Eh bien, écoutez, si, il faut contraindre les gens qui ont mis l'autorisation de mise sur le marché à avoir 6 mois de stock. Après de nombreuses discussions, on vient d'obtenir un engagement de 2 mois. Hein? Alors que la demande était qu'il y ait 6 mois de stock. Mais il faut que... je ne sais pas si vous avez vu, vous rappelez que le président a été avec le président d'Aventis pour dire que... De Sanofi, pour dire que le paracétamol serait désormais produit à nouveau en France. Ce n'est pas un médicament essentiel, mais on en fait tout un tam-tam. Bon,
Voilà. Il y a du chemin encore. Hein.
20 ans d'égarement, il est temps de changer. C'est le sous-titre de votre livre, hein, professeur André Grimaldi, Manifeste pour la santé 2022. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci d'être
Merci
venu ce matin pour faire un tour d'horizon très vaste, hein, donc sur ce qui ne va pas dans ce monde de la santé. Et André Bercoff y reviendra aussi d'ailleurs ce midi avec Frédéric Bizard, qui est lui un économiste spécialisé en santé aussi, qui sort un livre actuellement.
Et on parlera dans un instant gastronomie avec Valérie Expert dans un instant. Michel Sarran, le chef étoilé toulousain, sera l'invité de Valérie Expert et Gilles Gansman. Et puis nous, on vous retrouve demain matin.
C'est déjà jeudi. Tiens donc,
mais déjà, c'est long, mais elle passe vite cette semaine. Allez, restez avec nous et passez une belle journée sur Sud Radio. À demain, salut.